Et si l'intelligence artificielle la plus adaptable au monde n'était pas du tout en train d'être codée dans un labo hyper climatisé de la Silicon Valley?
Ouais, on a souvent cette image en tête, hein.
Ben oui, c'est le cliché. Mais imaginez plutôt qu'elle soit en train d'apprendre à négocier un microcrédit dans un marché à ciel ouvert de Lagos.
C'est fascinant quand on y pense. Ça casse complètement les idées reçues, hein.
Totalement. C'est le genre de question qui bouleverse tout. En fait, on a vraiment tendance à voir l'innovation de pointe comme une exportation genre exclusive du nord vers le sud.
Une technologie de demain qui finira bien par arriver un jour, quoi.
Voilà, exactement. Mais les éléments de notre exploration approfondie d'aujourd'hui, ben, ils dressent un tableau radicalement différent.
Ah oui, le contraste est saisissant.
Et pour ça, on va se plonger dans une source incroyable. C'est l'édition du 8 juin 2026 de l'émission Le Grand Journal, diffusée sur Radio Tam Tam Africa. Et là, on découvre que l'intelligence artificielle, c'est déjà le moteur principal de la transformation économique sur le continent africain.
Et ça va du Cap à Nairobi en passant par Lagos. C'est vraiment un changement de perspective qui est fondamental.
C'est clair. Et je trouve que le cadre analytique posé par cette émission, donc une radio numérique panafricaine indépendante, ça nous oblige à regarder la technologie sous un angle complètement différent.
Ah, mais on n'est plus du tout dans la discussion sur la dernière application grand public pour faire des mèmes, hein. L'enjeu est beaucoup plus lourd.
Ouais, on parle de trucs vitaux, là.
Exactement. On parle d'une redéfinition concrète des infrastructures, des systèmes financiers et, au bout du compte, de la souveraineté économique d'un continent entier.
Bon, du coup, on va décortiquer tout ça. Parce que pour comprendre comment on en arrive à parler de géopolitique continentale ou de finance, il faut commencer par la base, en fait.
C'est ça, le point de départ.
Avant de faire du commerce, il faut pouvoir se comprendre. Le tout premier obstacle à l'accès au numérique, c'est le langage.
Et le constat de l'émission est assez rude de ce côté-là.
Hyper rude. Avec plus de 2000 langues parlées en Afrique, on se rend compte que les grands modèles d'intelligence artificielle mondiaux, ils laissent une part immense de la population dans un angle mort technologique total.
Et la mécanique derrière cette exclusion, elle est purement mathématique en fait.
Comment ça mathématique?
Les modèles de langage dominants, ceux qu'on connaît tous, ils sont entraînés sur des milliards de pages de texte aspirées sur Internet.
Ouais, la fameuse base de données mondiale.
Voilà. Sauf que le volume de données textuelles disponibles en ligne pour des langues comme l'anglais ou l'espagnol, c'est astronomique, c'est infini.
Alors que pour d'autres langues, c'est le désert.
C'est ça. Pour de nombreuses langues africaines, même celles qui sont parlées par des millions de personnes tous les jours, ce corpus écrit numérisé est infiniment plus restreint.
Et donc, les algorithmes galèrent ?
Ils galèrent énormément. Ces algorithmes internationaux peinent à saisir les structures grammaticales complexes. Souvent des langues agglutinantes ou avec des nuances tonales très spécifiques.
Ouais, c'est hyper subtil, quoi. Et donc, si l'outil qui est censé démocratiser le savoir nécessite de parler un anglais standard pour fonctionner correctement,
Il n'a fait que renforcer une fracture qui existe déjà. Il crée de l'exclusion.
D'où l'importance cruciale des initiatives locales. Et notre source met largement en avant un projet qui s'appelle Mzanzi LM.
Ah, ce modèle est particulièrement intéressant.
Oui. C'est développé par des chercheurs de l'Université du Cap, en Afrique du Sud. Et leur mission, c'est pas de tout faire. Ils veulent pas concurrencer les géants sur tout. Ils veulent faire parfaitement une chose, maîtriser les 11 langues officielles écrites du pays.
Et les résultats sont là. Ce modèle a été spécifiquement entraîné avec des données locales de haute qualité.
Des données pertinentes, ouais.
Et du coup, ils surpassent les mastodontes internationaux quand il s'agit de traiter des langues comme l'Ilixhosa, par exemple.
Parce qu'en vrai, utiliser une IA généraliste pour une langue locale complexe, c'est un peu comme essayer de lire un poème profond avec un dictionnaire pour touristes.
C'est une excellente analogie, oui.
Tu vois, on peut traduire les mots un par un, on a une idée vague de ce dont ça parle, mais tout le contexte culturel, la subtilité, l'intention de l'auteur, tout ça est complètement détruit.
Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que la question linguistique, c'est pas juste un enjeu de préservation du patrimoine.
Ah non, c'est beaucoup plus que ça.
C'est le prérequis absolu pour exister dans l'économie de demain. Une intelligence artificielle qui comprend l'argot d'un marché local ou les expressions d'une communauté, c'est une interface qui permet soudainement à un artisan ou à un agriculteur d'interagir avec des services numériques complexes.
Juste en parlant par simple commande vocale.
Voilà, c'est la fondation. Sans cette couche de traduction hyper locale, aucune des innovations financières dont parle l'émission ne pourrait être déployée à grande échelle.
Et ça pose aussi la question de l'empreinte culturelle. On peut se demander ce qu'il advient de notre propre rapport au monde si chaque interaction numérique passe par un prisme purement californien.
Le fameux biais culturel des IA.
Exactement. Mais une fois que cette barrière linguistique est franchie, là, l'outil devient un vrai levier. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Parce qu'on passe à l'économie réelle.
On passe de la communication à la création de richesses pure et dure, ouais.
Le journal nous emmène au Nigeria, par exemple, pour examiner comment ces algorithmes redéfinissent l'accès au crédit.
Et le marché nigérien, c'est une illustration parfaite de cette transition entre la théorie et l'impact économique direct.
Ouais, parce que là-bas, historiquement, le système bancaire, c'est super rigide.
Ah oui, ça repose sur des critères très stricts. Il faut un contrat de travail formel, un historique bancaire régulier, souvent des garanties immobilières.
Et si t'as pas ça, bah t'es invisible.
Totalement invisible pour une banque classique, même si la personne gère un commerce très rentable depuis 10 ans dans l'économie informelle.
Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Elle vient combler ce vide en créant de nouvelles métriques de confiance. C'est le cœur de la révolution fintech locale.
Au lieu de chercher une fiche de paie qui n'existe de toute façon pas, ces nouveaux algorithmes de crédit, ils ingèrent une multitude de données alternatives.
Et de quelles données on parle concrètement ?
Bah, on parle de trucs hyper quotidiens. La régularité des recharges de crédit téléphonique, par exemple.
Ah ouais, très révélateur.
Le paiement des factures d'électricité, ou même la fréquence et la géolocalisation des petites transactions via mobile monnaie.
En fait, l'IA repère des motifs de fiabilité financière, là où le banquier traditionnel ne voyait que du chaos informel.
C'est exactement ça. Et le résultat, c'est que ça permet à des millions de personnes d'obtenir un microcrédit instantané directement sur leur téléphone.
Ce mécanisme, il est une redoutable efficacité. Parce qu'en agrégeant ces milliers de micro-interactions, l'algorithme construit un profil de solvabilité qui est dynamique.
Ouais, c'est pas figé.
C'est pas du tout la photographie statique d'un compte en banque à la fin du mois. C'est un film en temps réel de l'activité économique de la personne. En modélisant le comportement informel, la technologie agit vraiment comme un pont vers l'économie formelle.
Mais tu sais, il y a quand même un angle mort qui me frappe là-dedans.
Lequel ?
Ces données non traditionnelles, elles sont extrêmement volatiles. Imaginons le réseau téléphonique tombe en panne ou une transaction mobile n'est pas enregistrée.
Ce qui arrive fréquemment.
Voilà. Et soudainement, l'algorithme observe un trou énorme dans l'activité. Il n'y a pas un risque colossal de biais automatisé, là, genre un algorithme mal calibré qui pourrait brutalement exclure un commerçant de tout accès financier juste sur la base d'une erreur technique.
Sans aucun recours humain possible, ouais.
Exactement. C'est un peu fripant, non ?
C'est le risque inhérent à toute automatisation à grande échelle, en effet. Un faux pas algorithmique ou un modèle qui interpréterait mal une habitude locale, ça peut geler l'activité d'un entrepreneur du jour au lendemain. C'est un débat technique majeur.
Et comment ils gèrent ça, du coup ?
La réalité du terrain rapportée dans cette émission de Radio Tam Tam, elle montre que la boucle de rétroaction est extrêmement courte. L'alternative à ce risque d'erreur, il faut s'en rappeler, c'était l'exclusion totale.
Ah oui. C'est vrai.
Une exclusion systématique, garantie par l'ancien système. Donc, la balance penche quand même massivement vers l'inclusion.
D'accord, je vois. C'est mieux que rien, et de loin.
Et d'ailleurs, cette nouvelle lisibilité de l'économie informelle a un effet d'entraînement qui est assez inattendu. Ça stimule fortement les investissements de la diaspora.
Ah oui, c'est super intéressant, ça. En fait, ceux qui envoient des fonds depuis l'étranger, maintenant, ils ont des indicateurs chiffrés.
Ils ne financent plus à l'aveugle, quoi.
C'est ça. Ils peuvent s'appuyer sur la viabilité démontrée par ces scores de crédit alternatifs. Du coup, ça rassure tout le monde.
Et on observe une montée en puissance. Ça commence avec l'individu, le microcrédit, mais ça s'étend hyper rapidement aux petites entreprises.
Et l'émission donne un exemple parfait de cette accélération. Un événement récent, c'est l'acquisition de la start-up DIA Diner.ai par Yoko.
Yoko, c'est une fintech sud-africaine vraiment incontournable.
Ouais, ils sont énormes. Et leur objectif, avec ce rachat, c'est d'intégrer des outils d'analyse hyper avancés directement dans les terminaux de paiement. On parle de plus de 200 000 petites entreprises équipées.
Pour comprendre l'ampleur de ce mouvement, faut vraiment voir comment fonctionne un commerce de proximité traditionnel.
Ouais, la petite épicerie du coin.
La gestion des stocks ou la prévision de la trésorerie, souvent, ça se fait à l'instinct. Ou sur un carnet en papier.
C'est très manuel, quoi.
En intégrant cette IA, Yoko transforme un simple terminal de paiement en un véritable directeur financier automatisé.
C'est fou. L'algorithme analyse l'historique des ventes de la boutique. Il croise ses infos avec la météo locale.
Les événements du quartier, les tendances de consommation.
Et du coup, il peut prédire avec précision quels produits vont manquer la semaine suivante.
On équipe donc le vendeur de rue avec une puissance analytique qui, il y a encore quelques années, exigeait des logiciels hors de prix.
Des trucs réservés aux grandes multinationales de la distribution, quoi.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie ? Si on prend un peu de recul, on voit l'individu qui obtient du crédit, la petite entreprise qui optimise ses stocks. Mais l'exploration de Radio Tam Tam prend une dimension vraiment vertigineuse quand elle aborde l'échelle macroéconomique.
L'échelle des États.
Voilà. Une alliance technologique majeure a été officialisée entre le Kenya et l'Afrique du Sud. C'est porté directement par les présidents William Ruto et Cyril Ramaphosa.
C'est du très haut niveau diplomatique.
Et ils ont défini des axes de travail communs, axés sur la cybersécurité, les paiements numériques transfrontaliers et le commerce en ligne.
Si on relie ça à la situation dans son ensemble, on constate que la structuration politique vient en fait entériner une réalité technologique de terrain.
La technologie avance plus vite que les lois, comme c'est souvent.
Oui. Et l'ambition déclarée de cette alliance bilatérale, c'est pas juste de faire de belles photos diplomatiques. Le but, c'est de devenir l'épine dorsale technologique de la ZECAF.
La zone de libre-échange continentale africaine, c'est un projet d'une ampleur inédite. On parle d'unifier un marché de plus d'un milliard de personnes.
Mais sur le papier, la création d'un marché commun se heurte à des obstacles colossaux.
C'est clair. Le commerce intra-africain souffre historiquement d'un manque d'infrastructures physiques, mais aussi de barrières immatérielles énormes.
Plus de 42 vises différentes, des systèmes douaniers fragmentés.
Et surtout, une absence de protocole de confiance. Comment un fournisseur à Nairobi peut-il avoir la certitude d'être payé par un distributeur à Johannesburg?
Sans passer par de coûteuses banques intermédiaires en Europe ou en Amérique.
Voilà. Et c'est précisément là que l'alliance dont on parlait prend tout son sens.
Parce que l'intelligence artificielle et les réseaux de paiement numérique agissent comme une chambre de compensation en temps réel.
Exactement. Les algorithmes traduisent instantanément les devises, ils vérifient la fiabilité des acteurs à travers les frontières grâce à ces fameux scores de crédit informels.
Ils sécurisent la transaction du début à la fin.
C'est la construction d'un marché commun intégré. Et pas seulement avec des traités de réduction des douanes, hein. C'est le déploiement d'un réseau neuronal numérique qui efface les frontières monétaires.
L'autoroute pour faire circuler la donnée devient tout aussi cruciale que l'autoroute en asphalte pour faire circuler les marchandises.
Et cette nécessité technique, elle nous amène directement à l'enjeu politique central soulevé par l'éditorial du Grand Journal. La souveraineté matérielle.
C'est vraiment le point d'orgue de l'émission.
Parce que concevoir des modèles de langage ultra-performants ou des algorithmes financiers révolutionnaires, c'est formidable. Mais l'immatériel a besoin d'une fondation physique.
Il faut bien que le logiciel s'exécute quelque part.
Ben oui. Et l'éditorial relaie l'avertissement très sévère de plusieurs experts. Les gouvernements doivent impérativement classer l'IA comme une infrastructure stratégique nationale.
Au même titre que le réseau électrique ou les ports maritimes, l'urgence absolue, c'est de construire des centres de données locaux et d'acquérir la puissance de calcul.
Parce que ça soulève une question hyper importante sur la nature même de l'indépendance numérique.
Oui, si les données générées par le marché informel nigérien ou les échanges traités par Manzi Letem sont envoyées et stockées sur des serveurs en Europe ou en Asie.
Bah, la souveraineté, c'est une illusion totale.
Exactement. L'Afrique produirait la matière première, donc la donnée, et rachèterait le produit fini, l'analyse algorithmique, sous forme d'abonnement à des services étrangers.
C'est le schéma classique de l'économie d'extraction, mais appliqué à la tech.
C'est le danger principal, oui.
Je comprends parfaitement la théorie, mais confrontons ça à la réalité économique. Le déploiement d'une infrastructure d'IA à grande échelle, ça demande des capacités industrielles massives.
C'est gigantesque.
Construire des centres de données géants équipés de supercalculateurs, on parle de dizaines de milliards de dollars d'investissements en matériel.
Et il y a aussi la question énergétique.
Surtout. Ces installations exigent des quantités faramineuses d'électricité stable pour fonctionner et pour le refroidissement. Sur un continent où les réseaux électriques nationaux sont parfois sous tension et subissent des délestages fréquents...
Ouais, le fameux load shedding.
Voilà. Du coup, n'est-ce pas un défi totalement titanesque face à des puissances mondiales qui monopolisent déjà la production de semi-conducteurs ?
Obligatoire. Si cette infrastructure physique n'est pas construite, peu importe la qualité du code écrit par les ingénieurs locaux, le continent restera dépendant des fournisseurs de cloud étrangers.
Ceux qui détiennent les clés de la maison, quoi.
C'est ça. La puissance de calcul et la nouvelle capacité de raffinage. Sans elles, on est un simple marché de consommateurs captifs.
Et l'indépendance, ça exige des moyens. De manière très subtile, d'ailleurs, le modèle économique de notre source d'aujourd'hui, Radio Tom Tam Africa, il illustre exactement ce même principe d'autonomie.
Ah oui, c'est vrai, ils en parlent à la fin.
À la fin de la diffusion, on entend un appel à contribution de la présentatrice Félicité Amanier-Ravincent et elle rappelle que la station refuse les capitaux des grands groupes industriels.
Pour garantir sa ligne éditoriale.
Tout à fait. Sa survie repose sur le financement direct de ses auditeurs. C'est une métaphore parfaite, en fait. On ne peut pas déléguer le financement de son information.
Tout comme on ne peut pas déléguer la gestion de ses données stratégiques.
Sans finir par perdre le contrôle sur la finalité du système. L'indépendance a un coût d'infrastructure, qu'il s'agisse de journalisme ou de serveurs informatiques.
Le parallèle est d'une très grande clarté. Que ce soit pour la souveraineté narrative ou la souveraineté numérique, l'investissement local n'est pas une option.
C'est une condition de survie.
À long terme, oui.
Bah écoute, quand on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, la vision globale qui s'en dégage, elle est vraiment saisissante. Notre perception habituelle de l'innovation mondiale, bah elle en prend un sacré coup.
Elle est mise à rude épreuve, c'est sûr.
L'intelligence artificielle sur le continent africain n'est pas du tout un gadget d'anticipation ou une technologie d'importation qu'on essaye de faire rentrer de force dans un moule inadapté. Elle est au cœur du réacteur économique.
Et le fil conducteur de tous ces exemples, de l'IA linguistique au fintech, c'est l'adaptation aux contraintes extrêmes.
Et c'est ce qui rend cette dynamique si puissante, je trouve. L'innovation technologique la plus vitale se produit exactement à l'intersection entre une technologie de pointe et un besoin humain complexe.
C'est une innovation de terrain, pragmatique.
Ouais. Elle est là, en train de cartographier la complexité des langues locales avec des modèles comme Zanzi LM. Elle évite l'effacement culturel.
Elle intègre des millions d'exclus au système de crédit au Nigeria.
Elle équipe les petits commerçants via des fintechs comme Yuko.
Et elle pousse carrément les États, du Kenya à l'Afrique du Sud, à repenser les frontières de la zone de libre-échange.
Cette capacité à innover hors des cadres établis, avec des données imparfaites, des infrastructures parfois instables et une diversité linguistique massive.
C'est un sacré terrain d'entraînement.
Oui, ça force à créer des outils fondamentalement plus flexibles que ceux développés dans des environnements occidentaux qui sont très structurés et très homogènes.
Et franchement, ce constat, ça ouvre la voie à une réflexion vertigineuse pour clore notre analyse.
Sur l'avenir de ces technologies, tu veux dire ?
Ouais.
On observe l'Afrique forger des intelligences artificielles capables de naviguer avec une précision folle dans la fluidité et l'imprévisibilité de l'économie informelle. On voit des modèles s'entraîner efficacement avec très peu de données.
Avec une efficience redoutable.
Sachant que le monde entier fait face à une complexité grandissante et à des crises systémiques imprévisibles, que se passera-t-il dans les années à venir ?
C'est la grande question.
Lorsque ces modèles africains, qui sont testés sur le terrain, forgés dans ce chaos apparent et optimisés pour la résilience extrême, lorsqu'ils commenceront à s'exporter, le rapport de force pourrait bien s'inverser.
L'exportation de l'adaptabilité.
Exactement. On peut légitimement se demander si, à terme, ce ne sont pas les économies du Nord, habituées à des systèmes hyper rigides, qui finiront par importer et dépendre de cette intelligence artificielle ultra adaptable, développée sur le continent africain, juste pour gérer leurs propres défis de demain.
C'est une perspective fascinante.
Gardez l'esprit ouvert face à ces bouleversements. Il y a vraiment de quoi réécrire toutes nos certitudes.